Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Thierry Patinet, président d'Attaquoise, vous propose une émission mensuelle de 30 minutes sur les sujets d'actualité du moment. Aujourd'hui, il vous propose un retour sur la loi Immigration, Intégration, Asile du 26 janvier 2024. Pour cette émission, il est accompagné de Richard Labrousse, président de Solidarité Migrants Beauvais. Bonjour messieurs.
Bonjour, bonjour Hervé.
Bonjour.
Pour animer cette émission, je serai accompagné d'André.
Bonjour.
Alors concernant la loi Immigration, Intégration, Asile du 26 janvier 2024, le texte initial présenté par le gouvernement contenait 27 articles, le texte voté par le Parlement 86 articles, le Conseil constitutionnel a censuré plus du tiers de ces articles introduits au cours de l'examen du texte au Sénat. La loi comporte plusieurs volets, travail, intégration, éloignement, mais aussi asile et contentieux des étrangers. Jusqu'ici, j'ai tout bon ?
C'est très bien. Parfait, vous en sortez très bien.
Donc, Richard, présentez-vous déjà ?
Oui, donc, moi, je m'appelle Richard Labrousse, je suis président de Solidarité Migrants depuis 4 ans. Je suis également membre d'Attaque, c'est à Beauvais. Qu'on travaille dans l'association à rencontrer les migrants. On organise deux réunions par semaine, le mardi pour parler de la situation générale et le mercredi pour aborder la question des dossiers des personnes. Et donc là, c'est le mercredi, c'est plutôt quelque chose d'individuel.
Thierry ?
Oui, donc Attaque, c'est pas vraiment son cœur de métier, même si les questions de solidarité et d'internationalisme, bien évidemment, ça nous concerne et on agit, mais on le fait plutôt dans le cadre d'un collectif départemental dans l'Oise qui s'appelle Pas dans la rue. Et je tiens à citer tous les copains avec qui on travaille et les associations. Il y a 100 pour un toit, 100 pour un toit famille, la Ligue des droits de l'homme, la LDH, Emmaüs, le Secours catholique. Actus, Solidarité sans papier, et donc Attaque, et il y a le Carnaval des possibles qui file aussi un petit coup de main.
La FSU.
La FSU également, comme organisation syndicale. Et donc voilà, et Solidarité Migrants. C'est dans ce cadre-là, même si Richard était Attaque, qu'on a décidé, vu l'actualité enfin, qui vient de s'écouler avec essentiellement fin du mois de janvier et début du mois de février, avec l'adoption de la loi Asile Immigration, de mettre cette question à l'ordre du jour. Et de par rapport au format de l'émission, on essaiera de faire de manière similaire un peu à chaque émission mensuelle, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une émission d'Attaque, une émission sur la citoyenneté, sur l'éducation populaire, pour apprendre et réfléchir ensemble, et on fait appel à des associations qui sont plus spécialisées que nous, et c'est ce travail interassociatif auquel on croit énormément, pour fédérer les énergies. Chacun cultive bien son jardin et en faisant ensemble, on fera mieux. Voilà, c'est un petit peu l'idée. D'où la présence de Richard en tant que Solidarité Migrant. Voilà. Alors, avant de démarrer sur le contenu même de la loi Asile Immigration, on voulait démarrer par un témoignage. Alors, on n'a pas fait venir avec nous, parce qu'il n'est plus là, un jeune migrant qu'on a hébergé deux jours à la maison. Donc, voilà, c'était très conjoncturel, mais ce pour dire que c'est un cas vrai. Et on souhaite, au travers de ce témoignage, avant de démarrer les aspects peut-être plus politiques, plus techniques de la loi, lui donner une dimension humaine. C'est très important pour nous. Et donc, peu importe son prénom, on l'appellera Lomé, il venait de Guinée. Je ne sais même pas si ce n'est pas Guinée-Conakry, mais enfin, bref. Donc, il est parti parce que pas de perspective et en même temps un grand projet, et toute sa famille investissait dans tous les sens du terme, symbolique et financièrement, pour qu'il puisse réussir, pour avoir un avenir. Bon, voilà, il y a cette idée-là. Donc, son long parcours à travers l'Afrique, mais donc pour faire très bref au niveau de la radio, j'insiste sur son passage en Libye, où il a vécu quand même plusieurs mois de détention en esclavage. Ensuite, sa traversée à lui, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il l'a fait sans gilet de sauvetage, donc avec une peur au ventre terrible, d'autant plus qu'il ne savait pas nager. On n'a pas été vérifié, mais c'est ce qu'il nous a dit, et ce qui est malheureusement le cas de beaucoup d'entre eux. Bon, voilà. L'arrivée en France, chaotique, et en définitive, on a pu le récupérer, et puis il s'en est sorti via du théâtre. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on rencontre ce genre de personnes, on ne peut pas laisser accréditer l'idée que les gens viendraient faire du tourisme social. Sous-entendu, on vient en France parce que le régime de la sécurité sociale, il y a plus de droits, etc. Non, si lui est venu en France, c'est parce qu'il parlait déjà un petit peu le français. Et donc ça nous renvoie au colonialisme, ça renvoie à tout un tas de choses. Mais prenons-le positivement. Par rapport à la francophonie, tous ces gens qui parlent français, comment les considérer comme une richesse ? Et avec un désir de s'intégrer, quand on connaît les gens, sincèrement, on a une autre vision sur ce dossier asile-immigration. Même quand on vote Front National ou Rassemblement National, on en est intimement persuadé. Donc on s'adresse vraiment à tout le monde. Voilà. Je tenais à le dire en préalable.
Mais moi j'ai une question un peu polémique. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
Ah,
voilà, il faut partir de là, quoi.
Vous avez entièrement raison.
Voilà.
Entièrement raison, parce que si jamais on devait accueillir toute la misère du monde, on devrait accueillir les 260 millions de réfugiés à travers le monde. Vous imaginez l'histoire que ça donnerait en France, même si c'était que la France, même si c'était que l'Europe. On ne pourrait pas le faire. Par contre, qu'on puisse accueillir les personnes qui ont besoin de notre aide, et qui viennent, par exemple, d'Afrique subsaharienne, eh bien là, d'accord. Hein ? C'est ce que disait Michel Rocard, d'ailleurs, puisque c'est une phrase de Rocard. Ouais. Hein, il disait, voilà, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit faire notre possible pour pouvoir accueillir le plus de personnes possible.
Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux dire réfugiés ou exilés plutôt qu'immigrés ?
Oui, je pense qu'il est nécessaire de parler de réfugiés. Il est nécessaire de parler de réfugiés parce que c'est la première demande que ces personnes font pour pouvoir rester en France, à savoir avoir un statut de réfugié et donc être protégé. Malheureusement, ce n'est pas forcément toujours le cas. Et c'est même, voilà. Donc ça se produit, il se produit qu'après avoir été débouté de leur droit d'asile, ils aient une OQTF, une obligation à quitter le territoire français. Et là, ça pose un problème parce que ces personnes-là rentrent dans la clandestinité et sont dans des situations extrêmement difficiles.
Est-ce que c'est un problème français ou est-ce que c'est plutôt un problème qui devrait être traité au niveau européen pour que chacun prenne sa part ?
Ah, c'est pas un problème français. C'est pas qu'un problème français. C'est un problème mondial et un problème européen. Et une question, c'est même pas un problème, c'est une question européenne.
Oui, c'est une question. Le problème, c'est un mot qui convient pas.
Oui, c'est pas une question européenne. C'est une question européenne. Et là, par exemple, il n'y a
pas de coordination européenne.
Alors, il y a une tentative de coordination. C'est, attendez, je vais chercher l'intitulé. C'est le pacte sur la migration et l'asile qui devrait être voté au printemps. Et c'est ça vient en plus de la loi asile-immigration française. Et c'est un dispositif qui sera extrêmement inquiétant pour les personnes qui sont dans cette situation de demander l'asile. Actuellement, Gérald Darmanin a expliqué qu'il n'y aurait plus d'enfants en centre de rétention administratif, les CRA, ce qu'on appelle les CRA, en France. Oui, il n'y aura plus d'enfants en centre de rétention administrative. Il y aura des centres de rétention administrative à la lisière de l'Europe. À la lisière de l'Europe, où les enfants... La France a été d'ailleurs condamnée à 11 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir mis des enfants en centre de rétention. Et ça, c'est... Évidemment, chaque gouvernement s'est assis complètement sur ces décisions de la Commission européenne des droits de l'homme sans en tenir compte. Et je ne parle pas de la situation de Mayotte.
Est-ce que je peux...
Thierry.
Simplement une assise pour compléter la réponse de Richard à ta question sur est-ce une question européenne, française, est-ce un problème ? Toujours, je vais me mettre en tant qu'attaque, je parlerai chiffres à la fin, comme quoi les questions de finances, c'est important, il faut les prendre en compte. Là, c'est simplement, je reste sur la dimension humaine. La première, c'est on a pris un contact avec le maire de Pessat-Villeneuve, c'est en Auvergne, Donc on a fait une visioconférence. On l'a rencontré grâce à une émission dont je fais de la pub à la télé, sur la 5. Ça s'appelait C'est politique. Il est venu en tant que maire d'une petite commune, je ne sais pas si vous-même vous l'avez vu. Et donc il témoignait, c'est en 2016 qu'il y a eu la première arrivée des migrants, des réfugiés dans son village, et il témoigne du parcours sur la peur, les problèmes de relation avec les habitants, etc. Et en définitive, ce que cela a apporté, l'intégration, et en définitive, une intégration réussie dans un petit village, 700 habitants. C'était simplement pour dire problème, ressources, faut vraiment le prendre dans toutes ces dimensions. Et puis, Une autre approche, puisque en éducation populaire, le fait d'avoir des ordres de grandeur, ça permet d'avoir des idées claires sur les choses, c'est que problème ou simplement question migratoire, je dirais mes sources ultérieurement, la France, mais surtout l'Europe, a besoin par rapport au déclin démographique d'une arrivée massive de personnes étrangères, donc des gens qui arrivent au sens étymologique, c'est des immigrés, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la question, simplement pour remplacer les travailleurs, pour la force de travail, pour payer les retraites, etc. Donc il faut vraiment voir les choses dans sa globalité. C'était par rapport à ta question sur les arrivées et sur l'immigration.
André.
Oui. Moi, je veux vous dire très très franchement, j'ai essayé de me renseigner un peu, de comprendre un peu tout ce que vous dites là. Là, vous nous parlez par exemple qu'on va maintenir des centres de rétention, mais à l'extérieur, enfin, c'est-à-dire une mauvaise foi évidente, quoi, pour traiter la question. On a l'impression qu'il n'y a aucun éclairage actuellement qui permette de comprendre où est-ce qu'on en est avec cette question-là. Et la loi elle-même, qui est un fatras, à mon avis, monumental. J'ai bien essayé d'en comprendre quelque chose, mais j'avoue que je n'y comprends strictement rien, et je ne vois pas quelle est la position de la France, je ne vois pas où on en est, et je ne vois pas comment on traite la question.
Vous n'êtes pas le seul à être un peu perdu dans ce fatras, comme vous disiez.
Oui.
Moi, je me souviens de ce qu'avait dit Gérald Darmanin dans une interview au Monde, en décembre 2022, donc ça remonte quand même à quelques temps, hein, il avait expliqué, mais franchement, qu'il demandait aux préfets et aux préfètes de rendre la vie impossible aux migrants ou aux réfugiés. Mmh. Rendre la vie impossible, voilà. Et c'était quelque chose qui venait de lui, hein, donc c'est le Monde. C'est ça la question. La question, c'est de faire en sorte que la France ne puisse plus, ne veuille plus les accueillir en leur rendant des choses complètement compliquées. Par exemple, le fait de demander un titre de séjour à partir d'un logiciel, il n'y a plus de rendez-vous à la préfecture. Il faut faire des demandes par Internet,
en ligne.
Ce qui a occasionné d'ailleurs un drame à Lille, où récemment, hein, il y a un mois de ça, deux mois de ça, une jeune femme qui avait un titre de séjour, qui en a demandé le renouvellement. Alors normalement, ça doit arriver dans les deux mois. Là, ça a duré un an. Et au bout d'un an, effectivement, elle n'avait plus de boulot parce qu'elle n'avait pas la possibilité de travailler. Elle n'avait plus d'électricité parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer, etc. Et la petite fille, une petite fille de 3 mois, est morte. Est morte parce qu'elle avait, sa mère avait mis le feu pour faire, enfin, dans une sorte de petit poêle qui avait dégagé de l'oxyde de carbone. Voilà, c'est ça la réalité au quotidien de ces personnes-là.
Alors, ça vient contredire exactement ce que disait Thierry tout à l'heure, c'est-à-dire que Thierry parlait d'un besoin pour la France, et là, oui. Ce que vous nous dites, c'est qu'on cherche à rendre la vie impossible
tout à fait.
Ah, c'est tout, pas, tous les gens qui...
C'est pas contradictoire avec ce qu'a dit, ce qu'a dit Thierry. La question de la contradiction, c'est la question de la politique du gouvernement.
Voilà, c'est ce que je veux dire.
Moi, sur cet aspect des choses, je reste à hauteur humaine exprès. Un témoignage que j'ai... Alors là, c'est en direct, puisque c'est moi qui l'ai reçu, qui l'ai vécu. Lorsqu'il y a eu la marche des migrants... qui a traversé la France de la vallée de la Roya jusqu'à l'auberge du Croquant à Calais et qui est passé par l'Oise et qui est passé par Emmaüs Cercueil où on faisait partie de l'équipe d'animation et d'accueil et qu'on a accompagné. Et lors de ce cheminement sur Clermont, on a été harponné par une personne un peu véhémente. Bon, on voit le type de personnage, mais il y avait bonne ambiance, il faisait beau, on prend le temps de discuter. Donc je vous la fais brève, la discussion a quand même duré près d'une heure. Cette personne nous a dit, mais moi, encore heureux qu'il y a Marine, donc je traduis oui. Marine Le Pen, donc sous-entendu, je ne sais même pas d'ailleurs s'il était électeur au Rassemblement National, mais enfin peu importe. Ce que je retiens, ce que je tiens à dire absolument, c'est que, bien sûr, on n'était pas d'accord, mais que cette personne, quand on lui a posé la question, s'il y a quelqu'un qui est dans le fossé, qui est en train de se noyer ou quoi que ce soit, qu'il soit noir ou blanc, ou qui parle français ou pas français, quelle est votre première réaction? Qu'est-ce que vous faites? Et cette personne, bien qu'on n'était pas d'accord, nous a dit très sincèrement, vraiment, je lui tends la main et je l'aide à s'en sortir. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que, par rapport à ce que tu disais, André, sur les éléments contradictoires avec la politique de Darmanin, c'est la peur électoral d'un vote Front National, c'est l'élément essentiel qui justifie, je pense, enfin Richard, tu me diras si à Solidarité Migrants vous avez la même analyse, qui justifie en gros ce qu'il y a dans cette loi. Et donc c'est plus les gens votent Front National parce qu'ils ont peur des étrangers, des immigrés, le gouvernement fait cette loi parce qu'il a peur des électeurs qui vont... Enfin, on est dans une histoire de peur, et moi je ramène sur le maire de Pessé-Velna, Pessade, Villeneuve, pardon, les accueils, ça se passe bien, on rencontre des personnes, voilà. Mettons les choses, quand on connaît les gens, on n'a plus ce type de réaction. Mais après, est-ce qu'on peut accueillir tout le monde? C'est un autre débat.
Mais la loi n'est-elle pas faite pour avoir une immigration à la carte? En fait, comme certains pays, comme l'Australie, hein, ou choses comme ça, on a besoin de médecins ou d'infirmiers. Ben ceux-là, on a le droit, ils peuvent venir s'ils ont des diplômes. On a besoin de telle catégorie, on va les amener, et puis après, on va refuser les autres. Et faire une distinction entre les métiers.
Si je me souviens bien, l'Australie a créé des hotspots à l'extérieur sur des petites îles, où sont les personnes, où sont enfermées les personnes qui ne sont pas acceptées ou acceptables sur leur territoire, qui viennent de pays qui ne sont pas forcément productifs. Mais en tous les cas, c'est ça.
Mais ils acceptent ce dont ils ont besoin.
Oui.
C'est un peu à la carte.
Ils acceptent ces
immigrations choisies.
C'est une immigration choisie.
Mais là, quand vous regardez, par exemple, la liste des métiers en tension en Picardie, enfin pas en Picardie, dans les Hauts-de-France, vous vous rendez compte que aucun métier ne concerne les personnes qui sont en situation de réfugiés. Aucun. C'est les informaticiens. Des créateurs de logiciels, des trucs comme ça. Par contre, quand vous avez des enfants, des adolescents plutôt, qui sont apprentis boulangers,
On a un cas.
Par exemple, il y a le boulanger. J'ai pris des notes, excusez-moi. Fernand. Non, pardon. Stéphane Ravachez.
Voilà. Je n'ai plus le nom.
Mais
ouais. C'est pas grave.
Qui a fait une grève de la faim,
ah oui,
puisque son apprenti était devenu majeur, avait reçu une OQTF, et donc il devait quitter le département. Pourtant, le village dans lequel était ce boulanger avait besoin d'un boulanger. Quand je lis ça, cette histoire-là, moi, je pense à Fernand Reynaud.
J'allais dire, ça me rappelle un sketch de Fernand Reynaud.
Le boulanger qui se fait insulter. Ouais. Il n'est pas accepté parce qu'il a un nom bizarre, un prénom encore plus bizarre. Il finit par partir. Et en fait, les habitants se rendent compte qu'il est parti et bien, il n'y a plus de pain.
Et comment on peut accepter que des gens travaillent dans la clandestinité ? Ils ont des enfants qui sont scolarisés, ils cotisent, mais ils n'ont pas de droit de séjour.
Ils n'ont pas le droit de séjour, c'est un travail qui est clandestin, c'est un travail parfois qui se fait avec des bulletins de salaire qui ne sont pas à leur nom, mais qui peuvent être utilisés pour justifier leur titre de séjour à venir. Ça s'appelle la circulaire Valls. Donc ça date de quand même un petit moment. Je ne suis pas sûr que maintenant ça s'applique aussi facilement.
C'est-à-dire que pour pouvoir rester, il faut à la fois justifier d'un travail,
oui,
et que ce travail est impossible, il est illégal.
Il est illégal, oui, tout à fait.
Oui. Attendez, moi qui suis perdu, là, j'essaye de comprendre.
À Beauvais, il y a un jeune qu'on suit, qu'on rencontre régulièrement. Il a plus de 18 ans. Il travaille dans un kebab. Et un jour, il demande à son patron de le payer. La réponse du patron, ça a été de lui taper dessus. Il s'est pris un coup de poing. Il a des contacts, hein, ce jeune. Il a contacté les personnes qui l'héberge. Une camarade de Solidarité Migrants l'a emmené, ce jeune, au commissariat de police. Le policier, qui était d'astreinte, a demandé à recevoir les papiers du gamin. Le gamin n'avait pas de papier, évidemment, hein, parce que il n'avait pas de papier. Donc le policier lui a dit, écoutez, moi je peux très bien vous envoyer en centre de rétention administrative. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Hein, jusqu'au jour où, quand même, quelques semaines après, une policière a rappelé le gosse pour lui dire, voilà, quand même, faut pas laisser les choses comme ça. Vous voyez, donc, il y a à la fois des gens qui ont des comportements extrêmement inacceptables par rapport aux migrants, aux réfugiés, et puis des personnes aussi qui réagissent, qui réagissent, y compris policiers.
Oui. Par rapport à la question d'André sur le droit du travail, je vais dire pareil que la conclusion de Richard, c'est-à-dire que je ne mets pas tous les petits patrons et le patronat dans le même sac. Il y en a qui respectent les règles, les lois, il y en a qui ont des comportements humains, voire de solidarité. Ceci étant, le fait qu'il y ait une main-d'œuvre bon marché, parce que précaire, parce que illégal, ça fait pression sur le marché du travail, mais surtout sur l'ensemble des salaires. C'est-à-dire que tous les salariés en France devraient être solidaires pour que ces gens-là soient régularisés. Voilà. Et donc derrière, il y a la question des finances. En tant qu'attaque, je souhaitais aborder cette question-là. Alors peut-être, Hervé, tu as une question avant.
Voilà. J'ai une question avant parce que j'aimerais que Richard y prenne 2-3 minutes pour développer la question de l'aide médicale d'État.
Ah oui, bien sûr. C'était prévu. C'était prévu.
Et puis après, on verra avec Thierry les finances.
Alors, l'aide médicale d'État ou l'aide médicale d'urgence ? Parce qu'il y a un débat qui s'est fait autour de ça. L'aide médicale d'État, ça veut dire qu'en fait, toutes les maladies, y compris les maladies chroniques, le diabète, les cancers, les problèmes cardiaques, etc., sont traitées. Les accidents, évidemment, il y a une prise en charge médicale qui est faite. L'aide médicale d'urgence, ça veut dire que tous ces maladies qui sont des maladies chroniques sont laissées de côté. On ne les utilise plus, on ne les soigne plus. Ne sont soignés que les maladies survenant brutalement, les grippes, les rougeoles, etc. Ça a été fait en Espagne. Ça a été fait en Espagne en 2012. Ça a duré 5 ans, si j'ai bonne mémoire. Ça avait été fait parce que le Premier ministre de l'époque pensait qu'il fallait lutter contre le tourisme sanitaire, dont on parlait déjà. Contre le tourisme sanitaire. Quand ça a été rétabli, parce que ça a été rétabli en 2018, si je me souviens bien. Quand ça a été rétabli, eh bien, en fait, ils se sont rendus compte que la suppression de l'aide médicale d'État espagnole, hein, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça, mais bon, l'aide médicale d'État espagnole, la suppression de cette aide médicale d'État a créé beaucoup plus de dépenses parce que les personnes n'avaient pas été soignées sur le long terme et qu'il était nécessaire de les prendre en charge avec des situations médicales beaucoup plus importantes que ça. Ouais. Donc on est totalement opposé à la suppression de l'aide médicale d'État. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas que on. Hein. Il y a plus de 3000 médecins qui s'y sont opposés. Il y a l'APHP qui s'y est opposée. La fédération hospitalière également. Enfin, les syndicats, n'en parlons pas. Enfin, si, en parlons-en aussi. Ils y sont opposés. Bon, voilà. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qui est complètement délirant en termes de décision si jamais ça devait arriver.
Non, mais on passe toujours d'une contradiction à une autre, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas et ça coûte plus cher.
Oui.
C'est un peu comme tout à l'heure, c'est ce que je vous disais. On est tout le temps dans une contradiction.
Tout à fait. Vous avez raison.
Ce que j'aimerais bien comprendre, c'est qu'il y a un nouveau texte qui est pour le moment à l'étude. Je ne sais pas où il en est de son étude, ça me paraît bien compliqué. Mais en tout cas, je voudrais savoir... Est-ce que ces contradictions sont prises en compte ou est-ce qu'on en reste sur cette intention de rendre la vie impossible aux migrants? Mais il va falloir que vous nous donniez un petit peu le détail de certaines choses de cette loi. Est-ce qu'elle vise? Parce que pour le moment, quand vous parlez des intentions, on ne voit que des intentions agressives à l'égard des gens qui viennent de façon illégale dans le pays.
Je crains qu'il n'y ait pas d'intention bienveillante.
On dira ça pour être un peu euphémisé, et voilà.
Alors Thierry, tu voulais dire un mot, toi, sur l'immigration et les finances publiques.
Oui, parce que le cheval de bataille, si je puis dire, d'attaque, ce sont les questions de finances, parce qu'en définitive, que ce soit pour la transition écologique ou pour n'importe quoi, il va falloir des investissements. Il y a besoin d'argent pour changer la société. Il y a besoin d'argent pour accueillir et former des gens, voilà. Et donc, deux grosses questions. Une qu'on n'abordera pas aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a de l'argent? C'est la question de la justice fiscale, de la répartition des richesses, etc., qui est le cheval de bataille d'attaque. On avait fait des émissions il y a 2 ans avec vous. Je reviendrai dessus. Là, par rapport au thème d'aujourd'hui, c'est simplement est-ce que l'immigration, ça coûte cher? Quel est son impact sur les finances publiques? Donc par rapport à ça, je me doutais qu'on n'aurait pas beaucoup de temps, donc enfin. Donc en petit résumé, je m'appuie sur le CEP2I, donc les gens pourront vérifier, c'est-à-dire le Centre d'études prospectives et d'information internationale, sur l'OCDE, Organisation de coopération et développement économique, et sur le CAE, Conseil d'analyse économique. Bref, 3 instances qui sont loin d'être gauchistes ou éducation populaire, qui sont plutôt de la doxa libérale. Elles arrivent à la même conclusion, toutes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas porter de jugement sur le fait que l'immigration, ça coûte ou ça rapporte. Globalement, c'est un résultat nul. Voilà, une fois que j'ai dit ça, ça résume, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des économies là où c'est possible, voire investir dans la médecine, dans l'intégration, là où c'est nécessaire, sur les métiers en tension. Mais faire croire qu'on va résoudre les problèmes des finances publiques en France, diminuer la dette, etc., en diminuant le nombre d'étrangers, c'est des campagnes idéologiques absolument farfelues. Sur cette question financière, je conclus en disant, c'est un solde nul pour les finances publiques. Ça ne coûte pas. Et par contre, d'un point de vue humain, ça a un coût monstrueux. Ça a un coût monstrueux pour les gens qui le vivent. Et en plus, ça a une perte en termes de possibilité de coopération internationale à venir. Et si on prend, je vois que Hervé me fait signe, l'exemple simplement des étudiants étrangers. Quelle perte pour l'avenir de cette coopération avec les étudiants étrangers, dont la plupart d'ailleurs retournent dans leur pays. C'est simplement, comme disait André, et c'est pas que des contradictions, ce sont des politiques mal pensées. Comme sur l'agriculture, j'en profite pour dire que ce sera le sujet de notre prochaine émission. On souhaite le mettre parce que ce n'est toujours pas résolu. Et c'est mal posé parce qu'ils ne veulent pas sortir du logiciel libéral capitaliste pour faire du profit à court terme sur le dos des gens, quels qu'ils soient. Merci de m'avoir laissé terminer ma phrase.
Eh bien, c'était André et Hervé qui interviewaient Thierry Patinet, président d'Attaquoise, et Richard Labrousse, président de Solidarité Migrants Beauvrais, concernant la loi Immigration-Asile de 2024.